Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Je sais, vous en avez marre qu'on en parle. Dès qu'on discute numérique et en particulier Google, les mêmes questions, les mêmes débats. Les dérives d'Internet, la puissance des GAFAM, l'argent, nos libertés, la loi. Mais quand même, pourquoi se coltine-t-on Google? Pourquoi lui? Pourquoi est-il devenu nécessaire, irremplaçable? Un peu comme un membre de notre famille, un ami, voire un double. Un recours en tout cas incontournable. Car oui, grâce à Google, nous pouvons tout savoir. À une exception près, comment fait-il, lui, pour tout savoir?
Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches.
C'est bien, Lycos.
Partir en vacances, c'est facile. Il suffit de cliquer.
Allez, va chercher. Bravo, mon Lycos, tu l'as trouvé.
Et pour s'informer, c'est rapide. Il suffit de lui demander. Votre guide personnel sur Internet, www.lycos.fr.
Bonjour Guillaume Cyr.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information à l'université de Toulouse Capitole. Vous êtes aussi romancier. Vous avez écrit Les moteurs de recherche aux éditions La Découverte qui est paru en 2016. Est-ce que vous connaissiez cette pub pour Lycos qui date de 1999?
Oui, je me souviens très bien de Lycos, puisque je l'ai utilisé moi-même, et je me souviens de la grande campagne de publicité qu'ils avaient faite.
Donc cette pub est quand même... Moi, je m'en souviens pas. On a le même âge. On avait 14 ans à l'époque, c'était en 99. Moi, je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai redécouvert ce terme de Lycos. Lycos, c'était quoi? C'était le monde avant Google?
Avant Google, il y a eu tout un tas d'acteurs qui se sont lancés dans la recherche automatique sur le web. Lycos, c'était l'un d'eux. Et puis, d'autres noms qui diront peut-être des choses aux auditeurs, comme Exalead, AltaVista, Excite, Infoseek. Et il y avait une concurrence qui était assez vive entre les moteurs de recherche à la fin des années 90.
Et alors, pourquoi Google a remporté la mise d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces moteurs de recherche? Ils n'étaient pas performants? Ils étaient lents? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas et que Google a eu? On peut dire Google est arrivé à la fin des années 90, en 97. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Google?
Finalement, le moteur Google est arrivé un peu après les autres et il a pu observer ce que les autres faisaient de bien et moins bien et se démarquer, je crois. Comment ils ont fait? Finalement, les autres moteurs qu'on a cités, Exalead, AltaVista, fonctionnaient assez mal. Pourquoi? Parce que ils ont importé sur le web des méthodes de recherche automatisées assez connu déjà en informatique, mais appliqué d'habitude à des environnements documentaires standardisés, qui avaient été entièrement... Les pratiques avaient été normalisées, on avait renseigné le nom d'auteur toujours de la même façon, la date de la publication toujours de la même manière. Or, sur le web, puisque tout le monde, par nature, pouvait publier, les comportements étaient tout à fait anarchiques. Et parce que les comportements étaient anarchiques, faire fonctionner ces moteurs habitués à des systèmes documentaires très normés, c'était difficile. Google, ce qu'ils ont fait, c'est que tout en reprenant les méthodes utilisées par les autres, notamment d'analyse automatique du texte, de ce qu'on appelle de lexicométrie, en reprenant toutes les mêmes méthodes, ils ont ajouté un type de signal. En fait, ils se sont dit, comme on scanne le web, on a deux types d'informations, à la fois ce qu'il y a sur les pages Internet, et en même temps, la structure hypertextuelle du web, c'est-à-dire comment est-ce que les pages sont reliées les unes aux autres par des liens hypertextes.
Donc une sorte de carte.
Oui, ils font une carte, ils appellent ça d'ailleurs une topographie, qui ressemble un peu à une jonchée, vous voyez, aux racines d'un arbre ou aux branches d'un arbre, et avec des liens, des portes qui s'ouvrent, des chemins possibles. Et grâce à ce signal-là, ils ont calculé ce qu'ils appellent la centralité topographique, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que chaque lien hypertexte était comme un vote. Donc plus vous faites de liens vers une page, plus elle a de l'autorité, parce que les autres la citent et pointent vers elle, et donc plus elle remonte dans le classement, en plus de tous les autres signaux. Et en rajoutant ce signal-là, qu'ils ont appelé le PageRank, puisque le créateur de Google s'appelle Larry Page, et puis en plus ça faisait un petit jeu de mots avec la hiérarchie des pages, en rajoutant ce signal, ils ont eu des résultats beaucoup plus pertinents que les autres moteurs automatisés jusque-là.
Donc, qu'est-ce qui a créé le succès de Google? C'est le génie de Larry Page, accompagné d'un autre, Sergey Brin, ou est-ce que, en fait, c'est ceux qui utilisent ce moteur de recherche, à savoir nous, qui faisons qu'en de manière presque naturelle, nous contribuons en fait à son succès, à faire remonter telle page, à contribuer à fournir, alimenter cette cartographie du web?
Le succès de Google s'est fait quand même en plusieurs étapes. La première étape de son succès, effectivement, ça a été l'idée de ce calcul de la centralité topographique, même si d'autres l'ont eu quasiment en même temps, hein, notamment quelqu'un qui s'appelle John Kleinberg, qui avait créé l'algorithme HITS, qui ressemblait beaucoup à ça. Donc, ils ne sont pas tout à fait les seuls à l'avoir eu à ce moment-là. Et c'est vrai que ça donnait des résultats plus pertinents. Après, on est dans un moment, la concurrence était quand même assez vive, jusqu'en 2001-2002 au moins, puisqu'on est dans un moment où beaucoup d'acteurs historiques du monde des médias et des télécommunications ont investi assez massivement à ce moment-là, à la fin des années 90, dans le web, ont acheté des technologies de recherche automatisée, cherchent à les rentabiliser, n'y arrivent pas. Et Google est là en concurrence. Mais à partir de 2001, ces acteurs vont se désengager. C'est ce qu'on a appelé ensuite l'éclatement de la bulle Internet. Et Google, eux, ils ont gardé la maîtrise sans
c'est
avoir
quoi,
de modèle économique.
C'est en 2001, c'est ça ?
Pardon ?
C'est en 2001, c'est ça ?
À partir de fin des années, fin 2000, début 2001, ouais. Oui. Et Google avait gardé la maîtrise. C'était leur moteur à eux. Ils n'avaient pas encore de modèle économique, mais ils pouvaient encore prendre uniquement les décisions entre eux, sans consulter des financiers ou des acteurs importants qui les auraient achetés. Et parce qu'ils avaient gardé la main sur l'algorithme, ils ont continué à faire des choix, des arbitrages qui n'appartenaient qu'à eux, et à produire des listes de résultats qui apparemment étaient jugées pertinents par les utilisateurs.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la date de naissance de Google, c'était hier ? Le 15 septembre, je pense au 15 septembre 97, le jour en fait où le nom de domaine de Google a été enregistré.
Ils ont déposé ce nom de domaine en 97. Ils avaient déjà commencé à travailler dans le cadre d'un projet de doctorat à l'université de Stanford à la recherche automatisée. Et je pense qu'en 97, sans que ce soit la naissance de Google, le moteur de recherche qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, c'est le début d'un projet qui va les éloigner petit à petit de l'université, où je pense qu'à ce moment-là, même s'ils sont encore doctorants et qu'ils croient, et qu'ils sont assez idéalistes, c'est-à-dire qu'ils
se... Ils ont un côté libertarien, ils voient un peu Internet comme une contre-culture.
Ils ont été influencés un peu par cette contre-culture, même s'ils sont qu'à moitié dedans. En tout cas, ils sont dans le paradigme académique de transparence, publication des résultats, non-recherche de profit, qui évidemment va changer petit à petit. Ils vont aller glisser vers le paradigme industriel et devenir le plus grand acteur de publicité du monde qu'ils sont aujourd'hui, et un moteur de recherche qui est très éloigné du paradigme académique, puisqu'il n'est pas transparent, nous n'en connaissons pas les détails, nous ne connaissons pas les critères.
Mais alors voilà, c'est ça qui est fou et c'est ça qui a donné lieu à cette émission, Guillaume Cyr, c'est que effectivement, grâce à Google, on sait tout, mais de Google, on sait très peu de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retracer l'histoire, on va pouvoir parler de ses fondateurs, on va pouvoir parler des critiques qu'on fait à Google, mais qu'est-ce qu'on sait de Google vraiment en fait ? Que c'est un moteur de recherche ? Voilà, que c'est quelque chose de structurel, que ça fait partie du système, que c'est devenu un prolongement de nous-mêmes, que Google c'est tout de nous. Qu'est-ce que vraiment, enfin, comment ça fonctionne ? Est-ce que ça c'est vraiment le mystère de Google ?
Alors, il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut savoir. C'est vrai que c'est opaque, on ne connaît pas le détail, mais malgré tout, si on s'y intéresse, et sans que le coût d'entrée soit très élevé, c'est-à-dire que même sans aucune notion en informatique, on peut assez vite comprendre, en tout cas, à quels arbitrages procèdent les ingénieurs de Google. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on sait quelles décisions ils ont prises en effet, mais on sait quelles questions ils ont dû se poser. Je vous donne un exemple. La vitesse de chargement des pages. Est-ce qu'ils le prennent oui ou non comme un signal de pertinence des résultats ? Donc un signal qui serait un signal de performance du contenant deviendrait un signal de calcul de pertinence du contenu. Ça, vous pouvez répondre oui, il faut le prendre en compte, non, il faut le prendre en compte à quel point, après, donc comment on le pondère. On ne sait pas exactement quelle question, comment ils répondent à ça. On sait qu'ils le prennent en compte, mais on ne sait pas à quel point. En revanche, vous voyez, on sait qu'ils se sont posés la question et on peut ensuite dire est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on doit les laisser faire ça ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Parce que avantager celui qui est le plus performant, vous voyez les problèmes que ça pose. C'est comme si vous et moi, on disait tous les deux, nous sommes, je suis compétent pour parler de Spinoza, et on fait un 100 mètres, celui qui gagne, c'est celui qui, à la fin, sera le seul à en parler.
Oui, donc,
évidemment, ça
absurde.
Peut poser des problèmes. Absurde. Et pour cette raison-là, en période, par exemple, de campagne présidentielle, on se dit, est-ce que tous les partis, tous les courants d'opinion ont la même performance de contenant, sachant qu'il faut payer des services, certains services en payant permettent de fluidifier, d'augmenter la vitesse de chargement des pages. Donc vous voyez, ça peut poser tout un tas de problèmes où à la fin, c'est celui qui est le plus cher et le plus performant qui est jugé comme étant le plus pertinent. Et donc on peut savoir des choses en allant comme ça par la question que se posent les ingénieurs, en venant chercher les ingénieurs par le genre, les arbitrages qu'ils doivent poser.
Donc en fait, on connaît, on se doute des questions qu'ils se posent, mais on ne connaît pas leurs réponses.
On ne connaît pas les réponses exactes qu'ils donnent à ces questions, surtout qu'elles changent en permanence. L'algorithme qui, jusqu'à il y a 4-5 ans, était révisé une fois par mois, maintenant est révisé en permanence.
Donc, ça veut dire quoi, réviser un algorithme ?
Ça veut dire que, en permanence, à tout moment, ils peuvent réajuster un paramètre, lui donner plus de poids par rapport aux autres, rajouter un paramètre, en enlever un, et on ne sait pas exactement ce qu'ils font.
Et alors, qui décide de ça ? Est-ce que c'est les deux fondateurs qui dirigent encore Google, Larry Page et Sergey Brin ? Ou est-ce que c'est des ingénieurs ? Est-ce que c'est manuel, d'ailleurs ? Ou est-ce que c'est un ordinateur qui, lui-même, va faire en sorte de modifier légèrement des paramètres d'algorithme, juste pour mettre le trouble ?
Alors les deux, ce sont des ingénieurs bien sûr, qui d'abord peuvent corriger l'algorithme, créer aussi des listes noires de sites qui ne seront plus indexés, enfin peuvent intervenir, qui sont un petit groupe, qui prennent des décisions entre eux et ces décisions ne sortent pas de la salle dans laquelle ils se trouvent.
Ils sont combien ? Ils sont 10 ?
Une vingtaine à peu près. Sous le contrôle évidemment de ceux qui des dirigeants fondateurs. Et même quand vous dites est-ce que c'est l'algorithme qui lui-même se corrige ? Bien, dans ce cas-là, c'est quand même les ingénieurs qui lui ont appris de quelle manière est-ce qu'il pouvait lui-même apprendre à se corriger. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir parce que les ingénieurs de Google, en plus, sont très forts pour ça, par toute la rhétorique du lien. Alors, ils disent, eux, c'est du organic search, c'est du lien naturel, comme si ça avait poussé dans une jungle primaire, évidemment. Oui. Ils cherchent, en se faisant, à se déresponsabiliser et à ne pas répondre des résultats qui sont apportés. Mais évidemment, la technique ne descend pas du ciel ou ne pousse pas de la terre. Elle est bien produite par des ingénieurs et c'est de leurs arbitrages et donc de leurs valeurs, de leurs intérêts économiques, de leurs histoires personnelles, de leurs relations de pouvoir entre eux, qu'à la fin procède l'algorithme qui répond à nos questions.
Mais est-ce qu'on sait comment fonctionne cette entreprise Google en tant que telle ? Là, vous parlez d'une vingtaine d'ingénieurs, ce sont des sortes de bras droits des deux fondateurs. Est-ce qu'ils ont des postes plus importants ? Est-ce qu'en fait, on connaît l'organigramme de cette entreprise et les rapports de pouvoir, justement, qui peuvent y régner ?
On connaît l'organigramme parce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse et donc qui ont certaines obligations, là pour le coup, de transparence quant à son organisation. Cependant, le fonctionnement exact des décisions qui sont prises et de la chaîne de décision pour l'algorithme lui-même du moteur de recherche qui est quand même au centre du modèle économique de l'entreprise, ce processus de décision, d'abord ils sont pas nombreux, je vous dis, ils sont une vingtaine, et le processus de ces décisions est très opaque. On ne l'a jamais documenté officiellement.
Mais en fait, ce qui est assez fou avec Google, c'est qu'on, en fait, ça nous rendrait presque complotistes. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonctionnement qui est opaque. C'est une entreprise quand même qui, pour le coup, est mondiale, va décider en fait de ce que les gens voient presque à la minute près. C'est d'avance, anticipe, peut anticiper, les moyens d'anticiper ce que les gens voudront voir ou savoir dans quelques heures, selon leur personne, selon leur personnalité, leur parcours. Ça, c'est quand même assez dingue, en fait, comme entreprise. On peut dire qu'elle est unique là-dessus.
Oui et non. C'est-à-dire que quand vous le dites comme ça, c'est sûr, ça fait peur. Mais finalement, si on le voit comme un média, comme un journal, le journal que je lis, je ne sais pas exactement comment les décisions sont prises dans la salle de rédaction, comment est-ce qu'on choisit de traiter ou non tel ou tel sujet, est-ce que les journalistes se sont disputés avant que le journal d'aujourd'hui soit sorti, entre eux, est-ce que la titraille a été révisée par un secrétaire de rédaction, on ne sait pas exactement. Mais il faut être conscient que c'est bien fait, et je pense que pour le journal, on en a bien conscience, c'est bien fait par des individus qui procèdent à des arbitrages, qui font des choix en fonction de leurs valeurs, éventuellement leurs intérêts économiques. Avec un moteur de recherche comme Google, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je dirais jamais à quelqu'un de ne pas utiliser Google, mais on ne peut l'utiliser qu'en étant bien conscient que ce sont des êtres humains qui l'ont fait, que ces êtres humains, leurs intérêts ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, leur vision du monde n'est pas la même que la mienne forcément, et que j'utilise quelque chose qui est entre eux et moi, qui a bien une interaction entre eux et moi du point de vue social, et que si jamais il y a un problème, un contenu révisionniste remonte sur Google, je peux aussi éventuellement m'en prendre à eux, au moins sous forme de questions, pour interroger leurs responsabilités, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont co-auteurs ou non de la liste de résultats, de la même manière que eux pourront me demander « mais qu'est-ce que tu as tapé exactement dans Google pour que ce contenu-là en particulier remonte ?»
Si tant est qu'ils vous répondent.
Si tant est qu'ils me répondent.
Voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, je peux bien poser plein de questions à plein de gens. S'ils ne me répondent pas, j'aurais eu la liberté de leur poser ces questions-là, mais je ne serais pas plus éclairée. C'est-à-dire qu'eux auront décidé, auront eu le pouvoir de me répondre ou pas.
Oui, mais si je reprends l'exemple du journal, la salle de rédaction ne vous répondra pas non plus. Mais pourtant, vous approchez de façon plus prudente l'objet en ayant conscience du monde social qu'il articule. Et parce que vous êtes plus prudente, malgré tout, vous l'utilisez de façon plus éclairée, parce que vous vous rendez bien compte que il n'en descend pas une espèce de vérité objective et monolithique. Avec le moteur de recherche, c'est la même chose. Même s'il ne vous répond jamais, malgré tout, avancer forte de vos questions vous permet d'utiliser l'outil plus prudemment, vous rendant compte que des alternatives existent éventuellement, que ce qu'on vous produit là, ce n'est qu'une partie du web, et que vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord.
Alors, on pourra revenir sur cette idée d'alternative, parce qu'il va être question quand même du monopole de Google. Mais juste avant, j'aimerais qu'on entende la voix de Sergey Brin, qui est donc un des cofondateurs de Google et qui nous raconte les débuts de Google.
Google a démarré comme un projet de recherche à Stanford en 1995. À l'époque, on est allé voir tous les grands moteurs de recherche, Excite, Infoseek, donc on a toujours su que notre idée était viable commercialement. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent le résultat d'une recherche. On évalue d'abord la pertinence des pages web par rapport aux mots que vous recherchez et l'importance des différentes pages sur le web. Par exemple, si vous me cherchez, vous allez trouver mon site personnel à Stanford, parce qu'il y a beaucoup de pages sur le web qui pointent vers mon site en disant « c'est le site de Sergey Brin », ce qui rend l'information crédible. Un peu comme dans la vie, si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, vous allez demander à vos amis qui, eux, vous diront à qui il faut s'adresser pour trouver l'information.
Ok Google.
Donc c'était la voix de Sergey Brin, cofondateur de Google, qui raconte les débuts de Google. Ça paraît assez simple hein, en fait, hein. C'est un moteur de recherche pour avoir les meilleures informations. L'exemple d'ailleurs qu'il prend est excellent, puisqu'effectivement quand on veut avoir une information, on se tourne vers la personne qui est supposée l'avoir, qui va nous orienter vers une meilleure personne détenant la meilleure information. Est-ce que Google, on peut dire aujourd'hui, Guillaume Cyr, que c'est uniquement ça, un moteur de recherche ?
Alors Google, c'est à la fois le nom du moteur de recherche et le nom d'une entreprise elle-même intégrée à une firme plus grande qui désormais s'appelle maintenant Alphabet. Mais donc oui, c'est un moteur de recherche, ce n'est pas seulement un moteur de recherche, mais c'est bien un moteur de recherche. Et un moteur de recherche, je trouve que moi, il est pas assez complet dans ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que il faut bien voir quel est le métier d'un moteur de recherche pour comprendre son fonctionnement et comment ensuite je peux l'interroger, le critiquer dans le sens m'étonner de son fonctionnement. Un moteur de recherche fait trois choses. D'une part, quand j'ai un besoin d'information, il va prendre connaissance du web. C'est ce qu'on appelle le crawling. C'est-à-dire qu'il envoie des petits logiciels qui sont des crawlers qui vont naviguer de lien hypertexte en lien hypertexte et sur chaque page sur laquelle ils arriveront, ils vont copier cette page-là sur le serveur de Google. C'est pour ça qu'on disait « va chercher Lycos ». Il allait vraiment chercher et il ramenait tout sur les serveurs. Ça, c'est son premier métier. Il prend connaissance du web et il le topographie. Son deuxième métier, c'est ce qu'on appelle l'indexing, l'indexation. Il génère un fichier index, exactement comme ce que vous avez à la fin d'un livre d'histoire, Histoire de France. Vous allez avoir Napoléon, on vous dira bah, c'est page 121, page 122, page 128, page 330. Donc tout un tas de pages qui potentiellement répondront à votre besoin d'information si c'est Napoléon qui vous intéresse. Il génère ce fichier-là d'index. Et la troisième étape, c'est l'appariement, en anglais ils disent le matching, c'est-à-dire le fameux moment où en fonction d'une requête effectuée et de tout ce que lui a préparé avec son crawling et indexing, il va générer cette fameuse liste de résultats, tous supposément pertinents, mais classés par ordre de pertinence supposé, de celui qui l'est le plus à celui qui l'est le moins.
Alors par exemple, si je tape France Culture sur ma barre de recherche, je vais tout de suite tomber sur le site de France Culture. Ça veut dire que ce que je vais voir à ce moment-là, c'est le site de France Culture, mais qui n'est qu'une copie que Google a faite du site France Culture, c'est ça ?
Non. Si vous cliquez sur le lien que Google vous montre, vous allez effectivement arriver sur le site de France Culture.
Le vrai ?
Oui. Mais si vous regardez sur les résultats de Google, vous avez à côté de l'adresse URL de France Culture, tant que vous êtes encore chez Google, une petite flèche grise. Si vous cliquez sur cette petite flèche grise, vous pourrez ensuite cliquer sur un bouton qui s'appelle « En cache ». Et là, vous arriverez sur une page qui ressemblera comme deux gouttes d'eau à la page France Culture. Et
une sorte de photo ?
Exactement. Vous regardez l'adresse URL, vous êtes en fait sur les serveurs de Google, sur ce qu'on appelle le web cache.
Et alors, à quoi ça sert cette page-là, qui est une sorte de miroir ? C'est que Google essaye de stocker le maximum en fait, de copies de sites, mais dans quel but ?
Google copie tout le web.
Mais pourquoi ?
En permanence.
Mais pourquoi ?
Parce que grâce à ça, parce qu'il l'a ramené sur ses serveurs, il peut ensuite faire tourner ses propres logiciels de lexicométrie et d'analyse topographique depuis ses serveurs, puisqu'il a tout copié, et procéder à ces classements et vous produire ce classement le plus rapidement possible le jour où vous faites une requête.
Alors, donc par exemple, je reprends donc le fait que je tape France Culture sur mon moteur de recherche Google. À ce moment-là, c'est le site de France Culture qui va ressortir en premier. Est-ce qu'il ressort en premier grâce à l'action du merveilleux service web de France Culture, grâce au fait que je ne tape que ça sur Google les trois quarts de ma journée, ou parce que je ne sais pas, les trois quarts du monde a tapé France Culture dans la barre de recherche et c'est ça qu'il veut comme site en résultat?
Voilà, pourquoi France Culture remonte? Parce que, un, France Culture est dans l'adresse URL du site, ce qui est un très bon signal pour dire que c'est ça que vous cherchiez. Deux, les mots France et culture sont souvent sur les pages de France Culture, donc les pages sont identifiées comme des pages supposément pertinentes pour cette requête-là. Trois, quand les gens qui ne sont pas du site de France Culture font des liens vers votre site, ils font des liens souvent en les ancrant, on appelle ça une encre qui devient bleue et soulignée depuis leur page sur les mots France Culture. Donc les encres sont France Culture, ce qui est là encore un signal fort. Beaucoup de liens sont faits, ce qui vous donne beaucoup d'autorité pour cette requête en particulier, parce qu'ils sont faits depuis ces encres-là. Et en plus, quand les utilisateurs de Google tapent France Culture, que c'est ce lien-là qu'on leur propose, souvent c'est sur ce lien-là qu'ils cliquent. Et Google le sait aussi.
Donc ça veut dire que Google ne s'est pas trompé en le référençant en premier, parce que c'est souvent ça la réponse qu'ils veulent.
Voilà. Et si jamais, alors que Google le référence en premier, les gens ne cliquent jamais dessus, ou alors à chaque fois qu'ils cliquent, reviennent en arrière, Google considérera que ce sont des signaux négatifs, et petit à petit, France Culture descendra de plus en plus bas dans les résultats.
Donc, quelle que soit l'action, pour le coup, du site lui-même, c'est-à-dire que les ingénieurs du site auront beau bien référencer France Culture, le taguer partout, il aura beau être cité partout, c'est pas ça qu'il fera remonter, ce sera quand même l'action des internautes qui va être décisive.
Alors, on ne sait pas dans quelle mesure.
Ah ben voilà, c'est
voilà.
Le mystère.
En fait, là, on a cité tous les critères. Et maintenant, vous voyez, si on crée un moteur, vous et moi, il faudrait qu'on décide comment on pondère ces critères les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut voir, c'est que la liste de résultats, elle n'est pas le fait des seuls webmasters de France Culture. Elle est coproduite par Google, parce qu'évidemment, c'est son algorithme qui a permis de la produire, et donc par ces ingénieurs-là, par ceux qui gèrent le site de France Culture, et par l'internaute qui a tapé ces mots-là dans son moteur et qui lui-même les a régulièrement tapés, qui lui-même a une histoire avec Google. Peut-être qu'à chaque fois, si l'internaute, lui, n'a jamais cliqué sur ce lien-là, pour cet internaute en particulier, le résultat va descendre. Mais à la fin, c'est coproduit. Et il faut garder ça en tête pour les moments où on interroge la responsabilité. Par exemple, si vous avez un contenu qui remonte. Quelqu'un vient un jour vous voir et vous dit « C'est scandaleux, j'ai un contenu pédopornographique qui est remonté dans ma liste de résultats de Google. Oui. C'est de la faute de Google, il faut condamner Google, il faut les attaquer. » Demandez-lui tout de suite « Mais qu'est-ce que tu as tapé exactement dans la barre de recherche Google ?» S'il a tapé « météo », je comprends qu'il soit scandalisé. Mais si en fait il a tapé des mots un peu étranges qui le mènent vers ça, peut-être que lui, sa responsabilité aussi est à interroger en tout cas, juridiquement, collectivement, parce qu'il y a coproduction de la liste des résultats.
Mais alors ça, c'est assez fou parce que en fait, on en revient à cette idée de organic search où vous disiez, Guillaume Cyr, que c'était un concept un petit peu presque fumeux des ingénieurs Google de dire que finalement c'est un peu opaque parce que ça pousse comme ça naturellement. Voilà, l'algorithme va créer une sorte de plante géniale qui va être Google. Mais finalement, là, c'est vrai. Il y a une forme de contribution, de collaboration de part et d'autre qui fait que Google est presque un monstre auquel tout le monde contribue, sans vouloir lui donner une forme particulière, mais est presque d'accord en fait pour le fait que pour collaborer à cet organisme.
Il est l'endroit d'une interaction sociale entre plusieurs acteurs qui sont les autres utilisateurs, moi en tant qu'utilisateur, tous les producteurs de contenu et les ingénieurs qui ont produit ce. Donc nous ne nous rencontrons pas physiquement et pourtant nous interagissons par la médiation de ce qui est souvent le cas avec un instrument technique, par la médiation de ce logiciel-là. Et donc la chaîne de responsabilité doit être interrogée comme telle. Ça ne veut pas dire d'une part que c'est organique, non, parce que la liste de résultats, je vous le disais, n'existe pas en soi. Elle n'existe que subjectivée par l'utilisateur qui a procédé à cette requête dans cette zone géographique-là, avec ces données en particulier à ce moment-là. Et donc, elle n'existe qu'à ce moment-là, il l'a fait exister et elle existe en tant qu'interaction, en tant que potentialité d'abord, et puis ensuite, elle est subjectivée. Donc, non, c'est pas dans la jungle primordiale une plante qui nous aurait échappé, mais bien quelque chose qui est éminemment social et donc autour duquel s'agrègent des intérêts économiques, comme toujours, des rapports de pouvoir chez Google, mais aussi entre Google et moi utilisateur, entre Google et les éditeurs. On l'a vu avec tous les débats avec les éditeurs de presse. Avec c'est de la politique puisque c'est du social, c'est de l'économique et donc aussi c'est du juridique. Il y a contractualisation ou non. En tout cas, ça s'interroge du point de vue et du législateur et du juge.
Il y a aussi un paradoxe sur cette utilisation de Google. C'est effectivement quand on fait une recherche, bon, je ne vais pas reprendre pour la énième fois mon exemple de France Culture, mais effectivement, est-ce que Google nous propose en fait un monde qui est conformiste, avec les mêmes réponses tout le temps qui reviennent, qui va mettre en avant telle marque, telle pub, tel site, tel média, ou est-ce qu'au contraire, il nous propose des pages personnalisées ?
Alors, le problème de la personnalisation, souvent, il est présenté trop simplement. C'est-à-dire que, et on comprend qu'il est très séduisant présenté comme ça. Google a été accusé par un Américain qui a eu beaucoup de succès en faisant un TED Talk qui s'appelle Elie Pariser, de nous enfermer dans ce que Elie Pariser appelle des bulles filtres, en disant voilà, Google n'est pas un outil d'information, c'est un outil de confirmation de ce que nous pensons déjà, car c'est très personnalisé. Les contenus qui remontent pour moi. Regardez, je n'ai pas les mêmes résultats que mon oncle qui est conservateur. Moi, je suis progressiste, j'ai pas les mêmes résultats.
C'est une bonne thèse. Enfin, c'est une bonne question.
C'est séduisant, mais c'est faux. Parce que d'abord, le fait que Google soit personnalisé, il l'est en fonction de vos données éventuellement si vous avez un compte Gmail, il l'est en fonction de l'espace linguistique et géographique dans lequel votre adresse IP est localisée, mais en réalité, les résultats qui vous sont donnés sont peut-être moins personnalisés que quand vous achetez pour le coup un titre de presse avec lequel vous êtes d'accord politiquement. Mais surtout, la question de la personnalisation, il faut descendre d'un cran et la rendre plus prosaïque pour qu'elle soit plus intéressante. La vraie, comment elle se pose, c'est est-ce que oui ou non Google m'informe de la personnalisation dont mes résultats font l'objet ? Et est-ce que oui ou non il doit m'informer, c'est-à-dire l'État l'obligerait à m'informer ? Deuxième question, est-ce que oui ou non il me donne la main sur les critères de personnalisation dont mes résultats font l'objet ? Et est-ce qu'évidemment, l'État me le garantit ou pas ? Après, ça pose des questions de régulation.
Alors, quelles sont les réponses à ces deux questions ?
Et finalement, troisième question, dans quelle mesure cette prise en main, s'il me laisse le faire, est difficile ou non ? Et donc, est-ce que moi, je peux le faire autant que ma mère ou quelqu'un
qui est plus
âgé ou qu'un ingénieur, c'est-à-dire qui pose la question de ce qu'on appelle la littératie, la capacité de se saisir des outils qui nous sont donnés. Et là encore, est-ce que l'État me le garantit ? Aujourd'hui, cette question-là ne se pose jamais comme ça. Et Google, à mon avis, est très content parce que quand on dit pour ou contre la personnalisation, les gens disent « je suis contre », mais Google dit « mais c'est... » Enfin, en fait, ça devient tellement brutal comme débat que la solution n'arrive jamais. Et donc, finalement, on n'a pas la main, on n'est pas très informé sur la personnalisation dont on fait l'objet, on peut jamais l'apprendre, on peut jamais le voir. Et c'est ça le vrai problème de la personnalisation, plus qu'un problème de « je suis enfermé dans ce que je pense déjà ».
Donc, il y a à la fois le problème de... en fait, cette critique aussi, on l'a fait à Google, c'est que c'est la première chose que je vous disais, Guillaume Cyr, c'est à savoir aussi le conformisme. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes résultats qui tombent. Il y a même quelque chose d'un peu lassant de voilà, quand on tape une info, bah, c'est toujours les mêmes sites qui reviennent. Là, pour le coup, la diversité, les alternatives existent peu. Et en même temps, quand on va sur un site, on voit quand même des pubs qui nous sont destinées. Alors bon, moi, la dernière fois, j'ai regardé, je voulais acheter du fromage. Bah, du coup, maintenant, j'ai des pubs de mozzarella non-stop. Voilà, donc il y a quand même une personnalisation. Là, en fait, on fluctue toujours entre ces deux critiques par rapport à Google.
Oui, surtout que Google, en plus d'avoir son moteur de recherche, est aussi une régie publicitaire.
Voilà. Alors ça, c'est un gros sujet.
Voilà, c'est un réseau de syndication, c'est-à-dire que Google a des partenaires, il syndique, si vous avez un blog, vous pouvez très bien demain devenir un partenaire de Google, vous lui dites où sont vos encarts, et Google va venir distribuer des publicités dans ces encarts-là sur votre blog. Mmh. Donc, d'une part, il fédère un réseau d'annonceurs, et d'autre part, un réseau d'éditeurs, de contenus, et il distribue. Et donc, évidemment, pour lui, c'est très intéressant d'avoir les données de son moteur de recherche, parce qu'il peut ensuite vous récupérer en tant que régie, plus tard dans votre navigation, même quand vous êtes sur des sites qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont bien des sites partenaires, et vous envoyer des publicités parce qu'il sait que ceci ou cela vous intéresse, que vous avez tapé chambre d'hôtel à New York et donc que vous prévoyez un voyage et que peut-être il aura raison de vous en proposer. Donc c'est sûr que c'est très intéressant en tant que régie d'avoir des données qui viennent du moteur de recherche. Et on ne sait pas tout à fait très bien, on a du mal à savoir dans quelle mesure y a les données transitent d'un service à l'autre, hein, ce qui n'est pas normalement tout à fait autorisé. Mais... Donc oui, de ce point de vue-là, il y a personnalisation, côté publicité, mais malgré tout, la personnalisation sur les moteurs de recherche, en fait, vous et moi, par exemple, on a Wikipédia qui remonte en premier. Mm-hmm. Et Wikipédia, il ne remonte pas en premier pour des raisons de personnalisation de vos résultats ou pas. Il me remonte en premier pour deux raisons. C'est que, un, Google trouve qu'un contenu qui est gratuit, c'est mieux qu'un contenu qui est payant. Donc l'Encyclopédia Britannica, Universalis, ne remonte pas avant Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est ouvert et gratuit, et c'est léger. Deux. Ensuite, quand au départ les gens ont compris, on a entendu tout à l'heure la citation de Brin, comment fonctionnait Google, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils sont allés sur Wikipédia et ils ont tous fait des liens hypertextes depuis Wikipédia, puisque c'est une encyclopédie ouverte, vers leur propre site, pour se redistribuer de l'autorité par le wiki. Et ça, c'était une pratique qui était très mauvaise pour Google. Et donc Google a demandé à Wikipédia de mettre tous ces liens en ce qu'on appelle nofollow, c'est-à-dire que les liens hypertextes sur Wikipédia existent, mais ils ne redistribuent aucune autorité, Google. Et donc, Wikipédia se trouve de fait comme une sorte de réservoir à autorité qui ne la redistribue jamais. Oui. Et donc, Wikipédia, pour cette raison, mais vous voyez qu'une raison systémique liée au modèle documentaire qui n'est pas liée à la personnalisation, remonte sur toutes nos listes de résultats, quelles que soient pourtant nos pratiques personnelles et le degré de personnalisation qui nous concerne. Donc finalement, c'est pas si personnalisé que ça, puisque c'est toujours Wikipédia qui remonte.
Donc, ce qui va régner sur Google, c'est plutôt une uniformisation de nos pratiques ou de nos ressources documentaires.
Oui, si on se sert que de Google, en partie, et ça nous ramènera vers Wikipédia. Google donne beaucoup d'argent à la Wikimedia Foundation, donc ensuite le lien entre les deux, dans quelle mesure est-ce que là, il n'a pas intérêt aussi que Wikipédia remonte, ils ont intérêt que Wikipédia garde ses fameux liens en nofollow, donc les relations entre eux sont interrogées, et c'est vrai qu'à la fin, ils nous proposent un modèle qui est le modèle de l'encyclopédie participative, c'est tous vers ça qu'on va, on se renseigne tous à cette source-là, et on peut le déplorer en disant ça uniformise, surtout que Wikipédia.
Vous êtes d'accord, vous,
triste.
Avec ça ou pas, sur l'uniformisation ?
Je pense que si on ne se sert que de ça, mais je crois que ceux qui s'intéressent vraiment à un sujet, Google, c'est quand même que la première marche vers un sujet qui nous passionne ou pour lequel on a un réel intérêt. Mais c'est tous les sujets connexes, c'est tous les sujets où on se renseigne rapidement. Là, en tout cas, pour les sujets qui ne sont pas au centre de notre intérêt, tout cela, on a la même information que les autres. Et donc, on développe d'autant plus une spécialité que sur un sujet dont on est spécialisé, les autres n'auront vu que ce que tout le monde a vu. Et très vite, on va se retrouver expert d'un sujet parce qu'on est allé voir autrement qu'avec Google.
Donc, plutôt qu'uniformisation, on va dire plutôt une forme d'égalité, en fait, d'égalisation sur des sujets en général. Et puis après, spécialisation.
C'est ça, on a tous la première marche. On a tous une première marche assez commune qui nous mène vite, en réalité, vers Wikipédia.
Google. Réjouissons-nous, voilà le temps du Google. Miracle de l'omniscience humaine via Google. Image, ça y est, on a dépassé le Google Cap. Il n'est plus de chemin qui ne soit sur Google Maps. Tu seras le bienvenu sur la Google Earth si tu t'assures d'être à jour avec les Google Mœurs. Genre pour surfer sur le net avec ton Google Phone, il est conseillé d'utiliser Google Chrome. Télécharge Google Plus, tu seras moins Google seul. Bientôt des Google Puces dans ta Google Gueule. Réalité augmentée dans tes Google Glass. Maintenant t'es au courant de tout ce qui se Google passe. Dans ta Google cuisine, tu fais de la Google food. Ton Google frigo parle à ton Google four. Alors, elle est pas belle la Google vie. T'inquiète, elle te réserve encore quelques Googleries. Il faut que tu restes informé via Google News. Fais gaffe si t'es pas connecté, c'est la Google lose. Partage avec tes proches tes Google coup de cœur. T'as le choix, vas-y pioche dans la Google culture. Arrête de penser, Google pense, rejoins-nous. Envoie ton CV à Google France. T'auras un Google salaire et une Google car. Chez nous c'est Google sympa, on se Google marre. Vous allez voir, on va vous inonder de Google gadgets. Dans 40 ans tu vivras sur une Google planète. T'appuieras sur des boutons dans ta Google baignoire pour oublier que t'as des trous de Google mémoire. C'est fini, this is the Google N. Va mettre ton Google zizi dans tes Google friends. Bientôt tu réaliseras qu'il est Google trop tard. Mais tu seras déjà devenu un Google connard. Google. Google.
Ah, Internet est sur ordinateur maintenant.
Oh merde, Bill Gates est ici.
Bill Gates? Le milliardaire de l'informatique, Bill Gates? Ouh, punaise, punaise. Cache-toi vite, marche. Je veux pas que ça fasse société minable.
Monsieur Simpson?
Vous faites pas si riche que ça.
Ne vous arrêtez pas à ma coupe de cheveux, je suis extrêmement riche.
J'ai un peu la coupe au bol, Marge.
Votre annonce sur Internet a retenu mon attention, mais je ne vois pas très bien ce que la société Ordi Global Hyper Meganet propose. Aussi, pour écarter tout risque de concurrence, j'ai tout simplement décidé de vous racheter.
Oh, ça y est, Marge, j'y suis sans et haut pour monter cette affaire et aujourd'hui, ça va enfin être payant. On est riche, plus riche qu'un astronaute.
Tais-toi, voyons, tu vas tout faire rater.
Hein, t'as raison. C'est vraiment à contre-cœur que j'accepte votre offre.
Je sais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Faites le nécessaire, messieurs.
Hé, hey, pourquoi vous faites ça?
Vous croyez que je me suis enrichi en signant des chèques?
Les Simpsons, saison 9, épisode 14. Les Simpsons ont créé une société informatique. Bill Gates veut s'en débarrasser, veut se débarrasser de la concurrence. C'est une bonne manière, Guillaume Cyr, de vous poser la question de la concurrence par rapport à Google. Est-ce que Google a cassé la concurrence, les a empêchés de briller, d'être égalité, de les défier? Ou est-ce que c'est vraiment parce que Google, c'est les meilleurs?
Eh bien, c'est ce qu'ils ont dit au début. Ils ont beaucoup dit, nous, on est les meilleurs. Et la concurrence, ils disaient, one click away competition. Il suffit d'un clic pour aller chez nos concurrents. Et si les gens viennent chez nous, c'est parce que nos résultats sont plus pertinents. Ce qui était peut-être vrai au début, mais c'est un argument qu'on a maintenant très largement déconstruit. En fait, on est dans un marché, les moteurs de recherche, dont on a assez bien démontré qu'il y a des tendances structurelles à la position dominante, voire au monopole. Et que si demain on supprimait Google, un autre acteur, il y a fort à parier qu'un autre acteur finirait par minéraliser une position dominante, voire monopolistique, comme l'est celle de Google aujourd'hui.
Le système veut qu'un moteur de recherche soit dominant.
Exactement.
Okay.
Il y a donc quatre raisons qui aujourd'hui font que Google est en monopole. Autre que son seul talent lié
à sa compétence.
Ouais. Exactement. Il y en a deux qui sont pas très graves et deux qui posent un vrai souci de concurrence. Les deux premières, c'est un, les coûts à l'entrée du marché, c'est-à-dire que comme Google copie l'entièreté du web, au début le web était moins grand qu'aujourd'hui et donc il fallait moins de serveurs, mais aujourd'hui le web a atteint une telle taille que copier l'entièreté du web, si vous voulez vous lancer demain, Géraldine, il va falloir que vous achetiez beaucoup de serveurs, ça va vous coûter très cher.
C'est pas dans mes projets. Hein,
c'est ça, les coûts fixes à l'entrée du marché sont considérables, même pour Microsoft avec Bing, c'est quand même très difficile d'avoir une infrastructure comparable. Malgré tout, c'est des barrières à l'entrée du marché, mais on peut encore rentrer dans le marché. La deuxième raison, c'est un effet d'habitude. Quand on est habitué à utiliser Google, ils avaient fait une enquête comme ça aux États-Unis où, pour comparer Bing et Google, ils maquillaient les résultats de l'un de façon aléatoire auprès d'un échantillon voulu représentatif. Oui. Ils maquillaient les résultats de l'un par l'autre et ils demandaient, et tout le monde trouvait toujours que Google était plus pertinent parce que c'est l'interface à laquelle ils étaient habitués, les couleurs.
Une question d'habitude.
Voilà.
C'est un peu comme une maison.
Voilà. Et donc, ça crée ce que les économistes appellent un coup d'opportunité au changement qui déconstruit un peu l'argument du one click away competition. Malgré tout, on peut encore rentrer sur le marché. Les deux raisons suivantes sont beaucoup plus structurelles, profondes, pas si dures à comprendre.
Et problématiques.
Créer le monopole. Oui, ouais. Problématiques. Parce que c'est elles qui font que c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Donc, la troisième raison, c'est ce que les économistes appellent, avec ce nom pas très poétique, d'effet de réseau indirect croisé. Qui s'explique assez simplement. En fait, aujourd'hui, si vous êtes un vendeur d'appareils photo numériques, par exemple, et que vous voulez faire de la publicité pour attirer des gens sur votre site, il faut que vous alliez sur Google, parce que les utilisateurs de Google sont là. Et donc, vous allez aller faire vos publicités, proposer des bons prix pour vos appareils photo, etc. Et si vous êtes un acheteur, que vous cherchez à acheter un appareil photo numérique, il faut que vous alliez sur Google, puisque les annonceurs sont là. Et donc, plus il y a d'utilisateurs de Google, plus les annonceurs ont intérêt à être là. Et plus il y a d'annonceurs, plus les utilisateurs ont intérêt à venir ici, puisque c'est là qu'ils sont mis en concurrence et qu'il y aura les meilleurs prix possibles. Et donc, ça, vous voyez, par effet de réseau, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre de la plateforme à deux versants, comme disent les économistes, on va avoir un effet vertueux, une spirale comme ça, qui va, au bout d'un moment, minéraliser une position dominante très forte. D'autant plus forte qu'il y a une publiphilie, c'est-à-dire que les utilisateurs aiment les pubs qu'on leur présente, puisqu'ils ont vraiment tapé chambre d'hôtel à New York, appareil photo numérique, bon prix. Mmh. Donc, ils ont exprimé un besoin d'achat immédiat, et donc ça leur va très bien qu'on leur propose ça. Donc ça, déjà, ça rend la position dominante très forte. Et il y a une dernière étape de compréhension de ce qui explique ce monopole, lié aux données. Là, ça avait été démontré par un Anglais qui s'appelle Michael Pruffer avec un Français, Cyril Argenton, à partir des années 2012. En gros, si vous et moi, aujourd'hui, on crée un moteur de recherche et qu'on va voir les 7 milliards d'individus qui existent sur Terre et qui trouvent tous que votre moteur est meilleur que le mien. Normalement, si la concurrence est saine, c'est vous qui l'emportez sur le marché. Même vous m'écrasez. Maintenant, moi, disons que j'existe depuis 25 ans. Et vous venez de créer votre moteur. J'ai donc 25 ans de données qui ne sont pas liées à mon talent, mais simplement à mon âge, qui me permettent d'avoir ce qu'on appelle des fichiers log, donc tout un tas de données sur le comportement des utilisateurs. Je les donne à mon algorithme, qui par itération va progresser, justement. Et maintenant, nous revenons voir, vous et moi, les 7 milliards d'individus. Ils trouvent tous que, objectivement, mon moteur est plus pertinent que le vôtre. Donc j'ai gagné simplement parce que je suis plus vieux que vous. La valeur n'attend pas le nombre des années. En fait, si. Là, la valeur m'est garantie par le nombre des années.
Ce qui est un petit peu à l'image quand même de la société où on va avoir des gens qui vont rester dans des entreprises parce qu'ils ont de l'expérience. C'est-à-dire que c'est un vrai argument, l'expérience.
Exactement. Et si maintenant je vous donne ces données-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des concurrents crédibles de Google qui disent qu'il nous faudrait les fichiers log, et c'est ce qui explique aussi que Google est devenu un grand défenseur de la vie privée de ses utilisateurs, c'est que si jamais je vous donne ces données, vous-même, maintenant, on retourne voir les 7 milliards d'individus et ils trouvent à nouveau que c'est votre moteur qui est meilleur. Donc, c'est bien que ce n'est pas mon talent qui a été récompensé, mais que ma position dominante aujourd'hui est consolidée par mon trésor de données de 25 ans.
Mais ce qui veut dire que ça ne changera jamais alors, Guillaume Cyr, ça veut dire qu'un monde sans Google n'est pas possible.
Il est peu probable, c'est-à-dire que sa position dominante est quand même beaucoup plus solide à cause de ces deux effets-là que, par exemple, une position de réseaux sociaux comme Facebook. C'est-à-dire que Google, avec tout ça, mis bout à bout, se retrouve dans une position dominante assez inévitable, voire monopolistique, parce que chez nous, ils ne sont pas en position dominante. Ils sont à 95% du part de marché. En France, on ne parle pas, dans ce cas-là, de position dominante.
On parle
vraiment
monopole.
De monopole. Oui, oui.
Mais mondialement, c'est quand même un monopole aussi.
C'est un monopole. Ils sont à plus de 80%. Il y a des spécificités, soit géopolitiques liées à la censure en Chine, soit linguistiques liées à l'alphabet cyrillique en Russie où le moteur Yandex fonctionne davantage. Mais en réalité, à part des contingences locales liées soit à la langue, soit à la politique,
ils sont en position de force.
Ils sont dans le monde à plus de 83 ou 4% de marché.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire, Guillaume Cyr, quand vous me disiez il y a d'autres alternatives à Google? Bah non, en fait, il n'y en a pas alors.
Il y a d'autres alternatives. Quand on veut s'informer à propos d'un sujet, on peut aller sur le web en utilisant Google, on peut utiliser d'autres moteurs, on peut aller tout de suite...
C'est quoi les autres moteurs ?
Alors, il existe d'autres moteurs. Donc, on en a un en France qui s'appelle Quant. Il existe Bing qui est géré par Microsoft. Yahoo n'est pas un moteur de recherche. C'est-à-dire, si vous faites une recherche sur Yahoo, vous verrez tout en bas de la page qu'il est écrit « Powered by Bing », mais c'est Bing qui fournit ses résultats à Yahoo. Il y a tout un tas d'autres moteurs. Malgré tout, je ne crois pas beaucoup au débat de l'alternative, puisque souvent celui-là aussi, comme la personnalisation, est mal posée, parce qu'on nous dit « Ah ben, comme Google est un énorme acteur, que c'est une entreprise avec laquelle je ne suis pas d'accord, il ne faut plus l'utiliser. » Mais en fait, si demain on enlève Google, je vous dis, une autre position dominante, à cause des raisons qu'on a déjà dites, une autre position dominante risque de se former. Donc finalement, quand on veut réguler ce secteur-là, et qu'on veut le réguler du point de vue juridique, il faut se poser la question... systémiquement comment est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que j'autorise ou j'interdis à une entreprise qui, dans ce secteur-là, se retrouverait en position dominante, que ce soit Google ou une autre, puisque la position dominante est relativement inévitable.
Oui, mais ça changerait quand même quelque chose d'avoir un autre monopole, au moins pour l'alternance. C'est-à-dire que cet autre monopole, certes, il serait en position de monopole, comme le veut cette structure-là, comme vous l'expliquez très bien, Guillaume Cyr, mais cette autre entreprise fonctionnera peut-être autrement. Peut-être qu'elle sera plus transparente, peut-être qu'elle expliquera comment fonctionne son algorithme. Donc là, dans ce cas-là, c'est un monopole qui a une autre éthique.
C'est impossible. C'est-à-dire que si jamais... Puisque la position monopolistique est inévitable,
oui.
Quand vous vous retrouvez en monopole, vous ne pouvez plus avoir votre algorithme transparent. Pourquoi ? Parce que sinon, tous les acteurs malveillants vont se caler. Donc ce ne sera pas le plus pertinent qui remontera, mais le plus malin. C'est que tout le monde va se caler en fonction de votre algorithme, de ce qu'ils en ont compris, pour remonter dans les résultats. Donc il vous faudra soit les cacher à nouveau, soit vos utilisateurs vont se tourner vers un autre moteur qui, lui, les cache, parce que vos résultats seront plus pertinents. Comme on se retrouve en monopole, je comprends très bien que beaucoup de concurrents de Google disent « Oui, mais nous, comme DuckDuckGo, par exemple, nous, on est transparents. » Oui, bien sûr, parce que DuckDuckGo, ils ont moins de 1%. Donc, personne ne normalise son comportement en fonction d'un acteur qui a si peu de parts de marché. Mais dès lors qu'un acteur a 95% de parts de marché, ça crée un effet normatif en termes de comportement de publication sur le web considérable, pour justement biaiser l'algorithme, jouer contre lui. Donc c'est vrai que c'est un problème théorique, épistémique presque, très fort, l'idée que grâce à Google, comme vous l'avez dit au début, je peux tout savoir. Donc vous voyez, on renverse l'adage socratique, c'est plus je sais que je ne sais rien, c'est je sais tout à condition qu'on me demande pas comment c'est possible.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est problématique. Et malgré tout, parce que la position dominante qui est relativement inévitable est très forte, on ne peut pas imaginer une transparence parfaite d'un algorithme avec lequel sinon des acteurs malveillants joueraient.
Donc, ça veut dire que monopole, personnalisation, mais aussi transparence sont des faux débats faits et des fausses objections faites à Google.
C'est ça. En tout cas, ce sera jamais aussi clair que oui, transparence, non transparence. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a tout un continuum entre la transparence totale, qui est impensable, et l'absence aujourd'hui de transparence, qui est quand même
problématique.
Très poussée. Voilà, il pourrait malgré tout nous donner un certain nombre de gages, d'accès, non pas aux pondérations de tous les critères. Alors, il communique dessus, mais quand ils communiquent, on se demande parfois dans quelle mesure c'est vrai, parfois c'est des effets de manche ou pas, qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes de pondération. C'est quand même, ils essayent de communiquer, mais cette communication, là encore, ne nous renvoie qu'à leur bonne foi. Alors, certains imaginent qu'on pourrait contrôler, c'est-à-dire qu'une personne assermentée, tenue au secret ensuite, pourrait effectivement aller voir l'algorithme. D'autant, et je tiens à préciser ça parce que beaucoup l'ont oublié, surtout qu'ils ont fait disparaître cette annexe, dans le premier article que Brin et Page ont écrit en 98 à propos de Google, à l'époque où ils promettaient de rester de gentils doctorants idéalistes, ils ont dit qu'il leur serait facile de rajouter dans l'algorithme un biais systématique pour favoriser des partenaires économiques sans que personne ne s'en rende compte. Donc ils nous ont dit qu'ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont objectivement intérêt à privilégier certains partenaires ou certains partis politiques qui leur sont plus favorables que d'autres. Et on n'a pas rien d'autre que leur bonne foi pour être persuadé qu'ils ne biaisent pas l'algorithme afin de privilégier. Moi, encore une fois, je pense qu'ils le font pas. Mais peu importe ce que je pense, je suis sûr qu'ils ont intérêt à le faire et je suis sûr qu'ils peuvent le faire sans que je m'en rende compte. Est-ce que dans ce cas-là, ça pose pas un problème en termes de régulation? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas la réponse à ces questions-là, mais ça pose un problème.
Notre mission, que nous avons définie il y a bien longtemps, est d'organiser les informations du monde et de les rendre universellement accessibles et utiles. Et les gens disent souvent, est-ce vraiment encore ce que vous faites aujourd'hui? J'y pense toujours un peu personnellement et je n'en suis pas si sûr. Mais en fait, je pense à la recherche. C'est une chose très profonde pour chacun d'entre nous, de vraiment comprendre ce que vous voulez, de comprendre les informations du monde. Et nous en sommes encore qu'au début, ce qui est totalement fou. Nous y travaillons depuis 15 ans déjà, mais tout n'est pas fait.
Alors voilà, on a entendu la voix de Sergey Brin. Il fallait entendre la voix de l'autre fondateur de Google, Larry Page. C'était en 2014. Déjà en 2014, il disait effectivement qu'il n'avait plus tout à fait la même mission qu'au début. Au départ, c'était rendre l'information accessible. Maintenant, il dit qu'il se dédie à la recherche. C'est un petit peu flou quand même ce qu'il dit. Donc, on comprend pas trop à quelle recherche il se dévoue. Celle de l'accès à l'information peut-être, mais comment, tout reste opaque. Est-ce que pour vous, Guillaume Cyr, c'est possible cette idée que, en fait, par exemple, sur la non-transparence de Google, qui est inévitable en partie, comme on l'a expliqué, en fait, ils fassent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, leur algorithme, bah, ils changent 2-3 données, et puis bon.
Ben, alors, d'abord, je trouve que cette archive permet quand même de se rendre compte, en l'entendant, de quelque chose, c'est qu'on n'est quand même pas chez des grands métaphysiciens, hein. On n'est pas chez des grands cérébraux en fait, hein. C'est des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, ils sont pas très forts en, ils ont pas beaucoup étudié l'histoire, ils ont encore moins lu de la philo, on est quand même chez des gens qui sont un peu paumés, hein, vis-à-vis de
ce que veulent
dire les mots en fait.
Il y a quand même une dimension un petit peu ésotérique, c'est-à-dire on se dédie à la recherche, c'est l'humanité.
Et en même temps, il a pas fini sa thèse, et il est dans un paradigme industriel, c'est une énorme entreprise de publicité, alors dont le slogan, quand même, pendant longtemps, leur mot d'ordre, c'était ne sois pas, don't be evil. C'est-à-dire, ne sois pas le méchant dans le film de dessin animé de Walt Disney. C'est que vraiment, ils sont dans un système de valeurs d'enfants, quoi. Et on l'entend très bien, je trouve. C'est pour ça que les mots information, alors il dit la recherche d'information, c'est très profond. C'est très étonnant d'entendre dire
ça. Voilà, on sait pas trop de quoi ils parlent.
Et donc, ils ne font pas n'importe quoi, mais ils viennent pas de nulle part. Ils sont des ingénieurs et ils voient le monde à travers leur prisme à eux. Et ils vont beaucoup plus parler d'expérience utilisateur, de confort. C'est pour ça que justement la vitesse de chargement des pages est importante pour eux. Ils sont contents de vous dire en combien de millisecondes ils vous ont produit des résultats. Ils sont très sur l'expérience. Est-ce que tu as eu une bonne expérience? Mais on sait tous que le rapport à l'information ne peut pas être qu'une bonne expérience. Et que c'est important en démocratie que ce soit une expérience parfois musclée, désagréable. Mmh. La dialectique est à ce prix-là, en fait. Et que l'idée même que l'expérience utilisateur doit être optimale, efficiente, enfin, on voit tout ce vocabulaire, hein, on voit très bien comment il parle. On l'entendait, là. On entend même sa voix qui fait un peu enfantine. Je trouve que c'est amusant de l'entendre.
Un peu déprimé aussi, hein.
Oui, oui, c'est ça. Et donc, tous ces gens ont quand même quasiment 30% de marge nette avec des profits absolument considérables. Ils brassent des milliards. C'est une des plus grosses entreprises du monde et une entreprise de publicité. Alors, on les voit se diversifier. Par exemple, là, ils ont une entreprise en médical qui s'appelle Calico, dont le but, c'est toujours pareil. Ils ont des phrases un peu bébés. Le but, c'est de tuer la mort. Donc, ils sont très transhumanistes. Vous voyez, ils veulent tuer la mort parce que la mort, c'est pas bien. Parce qu'évidemment, quand on a un enfant, on dit « Oh là, ah non, la mort, c'est pas bien, donc il faut tuer la mort, il faut pas être le méchant, mais quand même, il faut gagner des milliards. » Et on se déplace en trottinette, dans un univers avec des couleurs primaires, comme ça, il y a des toboggans, tout le monde est content, mais en fait, c'est dangereux, ça. Hein.
Ouais, mais c'est un peu terrifiant, d'ailleurs, parce que en fait, ils veulent rendre l'homme immortel.
Mais non, mais c'est moi, je trouve ça plus déconcertant.
Ah oui, vous trouvez ça plus concernant que terrifiant.
Oui, c'est
mais fait, non, parce que ça veut quand même dire quelque chose de leur ambition. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on dit quand même qu'on sait tout grâce à Google, mais qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est flou pour des raisons légitimes ou pas, conscientes ou pas. Mais là où c'est terrifiant, c'est qu'en fait, effectivement, il y a quand même des gens qui sont parmi les plus riches de la planète, qui ont nos données et qui réfléchissent comme des enfants, vous l'avez
oui,
dit.
Oui, parce que si on leur demande ils veulent rendre l'homme immortel, mais si on leur dit d'abord qu'est-ce que c'est être humain, un être humain, qu'est-ce que déjà c'est, ils savent plus déjà répondre à la question.
Mais on leur demande pas de faire une thèse sur l'humain. Ils vont mettre du cash pour développer des machines auprès de gens qui sauront.
Oui, alors ils développent des technologies. Bon, ça c'est le problème du transhumanisme. Le meilleur texte jamais écrit contre le transhumanisme, à mon avis, a été écrit par Gustave Thibon en 1958. Ça s'appelle Vous serait comme des dieux, où tout était déjà dit, et finalement il nous prévoit, il rêve de tuer la... Non mais en fait, c'est quand même des... Moi je trouve pas ça terrifiant, parce qu'ils vont pas réussir, ils cherchent comment dépenser leurs milliards, quoi. C'est des riches qui s'ennuient, mais ils ont du pouvoir, ça c'est vrai, ils ont du pouvoir qui reste quand même un pouvoir essentiellement sur l'information, plus que sur les corps, ils gèrent l'information, ils ont de l'information, ils peuvent demain choisir de désindexer un contenu, de désindexer quelqu'un, de supprimer la,
voilà,
la parole dans l'espace public.
Ils ont quand même un certain droit de vie ou de mort, en fait, d'une certaine manière, même métaphorique, c'est-à-dire.
Oui, vous voyez, ils ont censuré définitivement, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai pris, Alex Jones, qui est cet Américain qui dit n'importe quoi, qui avait expliqué que Obama était un lézard. C'est vraiment le roi de la fake news. Mais alors, au lieu de censurer les fake news, Google un jour a dit ce sera la source qui ne pourra plus être référencée chez nous parce qu'il en a tellement dites que cette fois-ci on lui coupe le sifflet à lui en tant que source, ce qui était déjà un mouvement plus fort, hein, plus éditorial en fait de leur part. Et ils peuvent exercer ce pouvoir-là. Il faut jamais perdre de vue le fait que c'est pas parce qu'ils ne l'exercent pas ou qu'ils l'exercent peu qu'ils peuvent pas demain l'exercer davantage, se mêler davantage de politique. Et là, ça me terrifie davantage.
Que leur désir de transhumaniste.
Que leur désir de transhumaniste, qui sont quand même de leur côté tellement enfantins. Ça ne veut pas dire que le transhumanisme ne fait pas peur, à moi personnellement, mais chez eux, là, quand il le dit comme ça, avec sa petite voix de droupie, hein, je vais tuer la mort, moi j'ai vraiment l'impression d'un enfant qui, de ce point de vue-là, en tout cas, n'est pas inquiétant, lui.
Merci beaucoup Guillaume Cyr de nous avoir parlé, présenté, décortiqué le système Google. De vous, on peut lire Les moteurs de recherche, c'est paru aux éditions La Découverte en 2016. Dernier refuge, existe-t-il des livres numériques aux éditions Presse des Mines. Et enfin, votre roman Où la lumière s'effondre, c'est paru aux éditions Plomb. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Demande à Google, demande à Google. T'as oublié d'acheter une tente pour dormir même dans une descente. Demande à Google, demande à Google. Arrivé à destination, t'as pas de moyen de locomotion. Demande à Google, demande à Google. Taxi trouvé, y a des bouchons, mais le chauffeur n'a pas d'iPhone. Demande à Google, demande à Google. Demande à Google. Demande à Google, 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 demande à Google. L'hôtel est pas très bien incliné, c'est plein de cafards et de saleté. Dis-le à Google, dis-le à Google. Même si t'as pas fermé un œil, on t'a volé ton portefeuille. Dis-le à Google, dis-le à Google. Alors tu finis chez les flics, ils sont vraiment antipathiques. Dis-le à Google, dis-le à Google. Tu attends là plus de 6 heures, alors t'agresses l'inspecteur. Dis-le à Google. Finir cette galère. Demande à Google, demande à Google. Même en stop tu veux rentrer, seulement quelle route emprunter. Demande à Google, demande à Google. Une Britannique s'est arrêtée, mais tu sais pas parler l'anglais. Demande à Google, demande à Google. Jusqu'à chez toi elle te ramène, tu veux la remercier quand même. Demande à Google, demande à Google.
Et un grand merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Louise André, prise de son Jordan Fuentes. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram. Et bien sûr, on se retrouve sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.